France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les sentinelles ou l'impossible isolement. Il était une fois une île de l'océan Indien au pouvoir d'attraction irrésistible, North Sentinel, située au large de l'Inde et de la Birmanie. Depuis le 19e siècle, explorateurs, colonisateurs, anthropologues semblent s'être donné le mot pour approcher, étudier, voire domestiquer la tribu de chasseurs-cueilleurs qui l'habite. Sauf que ce peuple autochtone, qu'on appelle les sentinelles, refuse d'être contacté par le monde extérieur. Car il suffirait qu'il soit exposé à n'importe quelle maladie occidentale pour être décimé. Alors, c'est souvent un coup de flèche qu'ils accueillent ceux qui s'approchent de leur côte. Au tournant du 21e siècle, l'Inde, qui administre l'île, finit par renoncer à entrer en contact avec les sentinelles. Mais en 2018, un jeune Américain, John Shaw, se rend sur l'île interdite. Car il en est persuadé, Dieu exige de lui qu'il apporte la parole du Christ aux sentinelles qui n'ont rien demandé. Bref, il veut évangéliser. Une pratique anachronique qui, au regard de l'histoire, renvoie aux pires exactions. La mémoire amérindienne en sait quelque chose. Notre invité aujourd'hui, Martin Léna, chargé de plaidoyer au sein de l'ONG Survival International. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Margot Boudge, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
novembre 2018. 5 hommes sont sur un bateau. Ils sont indiens, ils ont l'habitude de naviguer entre les îles de l'archipel des Andaman pour jeter leurs filets sur des thons et des barracudas. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas sur leur zone de pêche habituelle. Et ils ne cherchent pas du poisson, mais un homme. Voilà plusieurs heures que l'Américain qu'ils transportaient avec eux leur a faussé compagnie. La mine grave, il leur avait lancé « Revenez plus tard, voir si je suis toujours vivant ». Puis il a ôté ses vêtements, à l'exception d'un caleçon noir, a plongé dans l'eau et s'est éloigné à la nage, direction l'île interdite. Les heures passent, les pêcheurs sont de retour. Ils scrutent la plage de l'île, personne. Tout à coup, un groupe d'hommes nus émerge de la forêt luxuriante. Ils ont la peau noire et une ceinture d'écorce pour seul oripeau. Ils traînent derrière une masse inerte. Pas de doute, c'est un corps humain, de couleur claire, vêtu d'un caleçon noir. Les 5 pêcheurs regardent les insulaires ensevelir la dépouille de l'Américain dans le sable. Ils ne s'approchent pas trop de l'île, trop dangereux. Mais ils en ont la preuve maintenant. John Shaw, 26 ans, n'a pas survécu à sa rencontre avec la tribu des Sentinelles, n'avait qu'à pas s'approcher. John Shaw, né en 1991 au nord-ouest des États-Unis. Son père, psychiatre, vient de Chine. Sa mère, avocate, est américaine. Le couple partage une culture commune, la Bible. John Shaw grandit sur les bancs d'une église et d'une école chrétienne évangélique, où il apprend l'importance, pour ceux qu'il côtoie, de la prière, de la charité et du prosélytisme. Chez les évangéliques, on affirme que tous les peuples du monde doivent avoir été exposés au message du Christ pour que celui-ci revienne sur terre. Alors John Shaw rêve de devenir missionnaire, d'exporter sa foi chez ceux qui l'on imagine privés, les pauvres. Filmé devant ses camarades de classe, à l'âge de 19 ans, il déclare:
on ne peut pas se proclamer chrétien un jour et dire « Allons faire la fête, nous saouler et nous défoncer. » Il faut vraiment que nous fassions quelque chose. Dans l'évangile selon saint Jean, Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
John Shaw le sait, il n'y a pas plus grand défi pour un missionnaire que de convertir ce qu'on appelle les peuples en isolement volontaire. Il existe une centaine de tribus qui préfèrent en effet vivre en autarcie, en dehors de la modernité et des grands courants religieux. Ils protègent farouchement leur mode de vie traditionnel, de chasseurs-cueilleurs, et n'entendent pas être contactés et avalés par la mondialisation. Alors, c'est avec passion que John Shaw découvre l'histoire des aviateurs Nate Saint et Jim Elliott, qui se sont efforcés de faire connaître le Christ aux indigènes de la jungle équatorienne dans les années 50. John rêve de marcher dans les pas de ces aventuriers de la foi qui s'étalent dans les comics ou au cinéma. Et puis, vivre immergé dans la nature ne lui fait pas peur. Au contraire, depuis l'enfance, il n'aime rien tant que se perdre dans la forêt. Alors, John Cho cherche. Et il peut compter sur le site internet du Joshua Project, organisation évangélique, pour lui indiquer les zones de la planète qui n'ont pas été atteintes par le christianisme évangélisateur, celui-là même qui a tant fait couler le sang, massacrant les Amérindiens par millions il y a quelques siècles. Cho fait alors défiler la carte du monde sur l'écran de son ordinateur. Et il voit apparaître un confetti, là, dans l'océan Indien, North Sentinel. Un clic plus tard, il apprend que cette île de 60 km² compte environ 200 habitants et que le pourcentage de chrétiens y est de 0%. En cette nuit de l'année 2010, John Cho reste éveillé parce qu'il le sent. Convertir les sentinelles, qui n'ont rien demandé, rappelons-le, est la mission que lui envoie Dieu. Mais au fait, qui sont ces sentinelles? Eh bien, un peuple qui ne s'est jamais officiellement exprimé, dont aucun étranger ne connaît la langue, et qui a la réputation d'être le peuple le plus hostile de la planète.
L'île de North Sentinel fait partie d'un archipel appelé les Andamans. On peut sentir la lourdeur de l'air tropical rien qu'en entendant ce nom romantique. Je ne savais pas où se trouvaient les Andamans. Alors j'ai cherché leur emplacement dans un atlas, sur l'une des plus anciennes cartes du monde conservées. Une carte écrite en latin qui évoque Isla de Buena Fortuna. Les îles de Bonne Fortune. Mais il y a aussi la notation à côté, dans ces îles se trouvent des cannibales.
Pendant longtemps, les explorateurs, empreints de légendes diverses selon lesquelles tout ce qui se promène à moitié nu sur une île est forcément cannibale, ont évité les Andamans, au cas où ils auraient été mangés tout cru. Il faut dire que Marco Polo y a mis du sien, affirmant que cet archipel situé au grand large de l'Inde et de la Birmanie est un repère d'anthropophages. Cela n'empêche pas les Britanniques, grands colonisateurs de la région, d'établir une prison sur l'île principale au XIXe siècle pour y reléguer les indépendantistes indiens. En fondant la colonie pénitentiaire de Port Blair, les Anglais ne tardent pas à entrer en contact avec les autochtones des Andamans. Or, les Anglais n'ont pas été mangés. D'abord parce que les peuples de l'archipel ont du goût. Le poisson, la viande, l'animal et le végétal sont bien meilleurs que l'humain, apparemment. Et ils ne s'en privent pas. Chasse, pêche, cueillette, c'est leur credo. Leur peau noire et leurs cheveux crépus témoignent de leur origine. Venus d'Afrique il y a 60 000 ans, ils sont les premiers humains à avoir peuplé l'Asie. Face aux colons britanniques, qui emploient tantôt la manière forte, tantôt la manière douce, les grands Andamandais, les Onges, les Djangils, ne tardent pas à s'incliner. Et bientôt, on les envoie faire la chasse aux prisonniers échappés du bagne britannique. Enfin, pour les indigènes qui sont toujours vivants, car ils sont nombreux à être décimés par des maladies exogènes, genre rougeole, grippe, contre lesquelles ils n'ont aucune immunité. À la fin du 19e siècle, les Britanniques peuvent se targuer de dominer une bonne partie des Andamans. Ils décident alors de pousser leur exploration vers une île un peu à l'écart, difficile d'accès, exposée aux tempêtes et ceinturée de récifs coralliens, North Sentinel. En 1880, Maurice Vidal Portman y débarque, escorté par une troupe d'hommes armés. Mais cet officier de marine anglaise en charge des Andamans est déçu. Il espérait ramener des autochtones à la colonie de Port Blair, pour les photographier, les domestiquer, les civiliser. Mais les sentinelles s'enfuient dans la forêt. Pendant 2 semaines, les troupes de Portman fouillent l'île de fond en comble et finissent par encercler un couple âgé et 4 enfants. Le vieillard dégaine son arc, mais il est maîtrisé par les soldats. Maurice Vidal Portman raconte dans ses mémoires.
Nous avons capturé les 6 sentinelles indemnes et les avons embarquées. Le lendemain, nous les avons emmenés à Port Blair, où je les ai gardés chez moi pendant quelques jours. Ils tombèrent rapidement malades, et le vieil homme et sa femme moururent. Les 4 enfants furent donc renvoyés chez eux avec de nombreux cadeaux.
Les Britanniques décident alors d'arrêter là leur relation avec les sentinelles. Trop farouches, pas assez dociles. Et ils renoncent à investir une île qui, par ses conditions géographiques difficiles et ses ressources naturelles limitées, les intéresse peu finalement. Alors, les sentinelles disparaissent des radars. Mais on ignore si les enfants renvoyés malades chez eux ont contaminé les membres de leur tribu. On peut simplement supposer que les sentinelles ont transmis à leurs descendants une mémoire orale de cette rencontre traumatisante avec l'étranger. Et qu'ils se sont construits avec la conviction qu'il faut se protéger de toute menace extérieure. Entendez l'humain autoproclamé civilisé. Ce n'est qu'en 1967, presque 100 ans plus tard, que les Sentinelles renvoient un bateau officiel pour s'approcher de leur côte. Cette fois, il n'est pas rempli d'Anglais, mais d'Indiens. Voilà 20 ans que les Andamans sont passés sous pavillon de l'Inde, qui s'est libéré de la tutelle britannique. Et les autorités entendent bien nouer des contacts avec les habitants de l'île oubliée. Objectif, étudier cette société dont le mode de vie semble ne pas avoir varié depuis des millénaires. Bon, jusque-là, pourquoi pas? Mais il s'agit aussi de l'intégrer à la nation indienne. Oh, de manière plus respectueuse que ne l'ont fait leurs prédécesseurs britanniques. Les temps ont changé. Et les Indiens affichent leur volonté de protéger les différentes tribus indigènes andamanaises qui n'ont cessé de décliner, terrassées par les épidémies. L'île de North Sentinel est officiellement interdite au public. C'est désormais aux anthropologues de fouler le sol de cette réserve tribale. Et pour nouer des contacts, la stratégie est simple. Distribuer des cadeaux qui proposent un aperçu du monde moderne tout en signifiant une intention amicale. C'est sur une plage vide que l'anthropologue Trilokhnak Pandit y débarque pour la première fois. Les sentinelles qui portent bien leur nom, pour le coup, l'ont vu, mais ont déguerpi. Il faut dire que Pandit est entouré d'hommes armés. Alors, il s'enfonce dans la jungle jusqu'à une clairière piquetée de 18 huttes. Le camp des sentinelles, qui semble avoir été abandonné avec précipitation, est inspecté. Quelques offrandes sont déposées, soit en plastique, ustensiles de cuisine, vêtements. Et puis, il est temps de partir, insiste Pandit, tenaillé par le sentiment de commettre une intrusion. Mais les membres de l'expédition n'entendent pas repartir les mains vides.
Certains policiers ont emporté des arcs, des flèches, des lances et d'autres objets fabriqués par les sentinelles en guise de souvenir. Je m'y suis opposé, mais les policiers ont rejeté ma demande. Plus tard, certains de ces objets ont été récupérés pour notre musée d'anthropologie et s'y trouvent toujours. L'atmosphère de cette visite était celle de hordes conquérantes envahissant un territoire conquis. Ce n'était pas du tout à mon goût. Cela a heurté ma sensibilité d'anthropologue.
Signé Pandit. À partir de là, les sentinelles semblent s'évertuer à ne plus laisser d'intrus débarquer sur leur île. En 1974, c'est une volée de flèches qui accueille le bateau de Pandit. Cette fois, l'anthropologue est venu avec un journaliste du National Geographic et aussi un réalisateur, Prem Vaidya, qui reçoit une flèche en pleine jambe. Philosophe, celui-ci déclare à la fin de son documentaire « Man in Search of Man » « Les sentinelles ne veulent rien avoir à faire avec nous. Ont-ils raison ? L'âge de pierre est-il préférable à l'âge nucléaire ?» La tribu dont la silhouette lointaine, menaçante et armée s'affiche en grand dans le National Geographic gagne ainsi sa réputation de peuple le plus hostile de la planète. Ça va pas s'arrêter. Le 2 août 1981, un cargo panaméen, le Primrose, navigue entre le Bangladesh et l'Australie, chargé d'une cargaison d'aliments pour volailles. Soudain, c'est le choc. Le navire s'échoue sur un récif corallien. C'est avec soulagement que le commandant de bord aperçoit la terre ferme à quelques centaines de mètres. Alors que faire ? Sortir les canots ? Non, l'océan est trop agité. Et là, il aperçoit des silhouettes sur la plage. Alors il agite la main vers elles. Ce sont probablement des secours qui s'organisent. Mais il ne tarde pas à se rendre compte qu'il a fait naufrage près de North Sentinel et que ses habitants n'ont pas des intentions amicales. Il envoie donc un SOS à la compagnie maritime la plus proche.
Des hommes sauvages, estimés à plus de 50, sont en train de construire 2 ou 3 bateaux en bois. Ils sont armés d'armes artisanales. Nous craignons qu'ils ne nous assiègent au coucher du soleil. La vie de tous les membres de l'équipage n'est pas garantie.
Le Primrose est effectivement pris pour cible. Embarqués sur les pirogues, les sentinelles avancent en tirant des flèches en direction du cargo. Heureusement, la houle est forte et les projectiles sont déviés de leur trajectoire. Et puis, les embarcations sentinelles, équipées de perches plutôt que de rames, ne sont pas conçues pour de longues traversées. Terrorisé, le commandant réclame par radio qu'on lui largue des armes à feu par voie aérienne. Demande refusée, ce serait un carnage. Une semaine plus tard, la marine indienne dépêche finalement un hélicoptère pour élitreuiller les passagers du Primrose. Personne n'est mort, mais l'équipage a bien cru y rester. Malgré l'hostilité affichée des autochtones, les anthropologues continuent de sillonner leurs côtes. Tant et si bien qu'au cours des années 90, les sentinelles semblent s'habituer au passage régulier de ces Indiens, et même de ces Indiennes, pacifiques et chargées de cadeaux. Ils ont l'air d'apprécier particulièrement les dons de noix de coco, qui ne poussent pas sur leur île, au point de plonger dans l'eau pour récupérer celles qui leur sont lancées. En 1991, un sentinelle va jusqu'à accepter un fruit des mains de Pandit, et avec le sourire. L'anthropologue est ému. Voilà 25 ans qu'il espère provoquer ce contact. Mais il observe aussi que les sentinelles refusent de prolonger l'échange. Et aucun cadeau n'est donné en retour. Des femmes sentinelles tirent leurs hommes en arrière et des gestes indiquent clairement aux étrangers, ceux qui s'attardent sur la plage, qu'il est temps de retourner d'où ils viennent. En 2023, arrivé à un âge avancé, Pandit se souvient.
À un moment, un des garçons a sorti un couteau et a fait un geste comme celui-ci qui semblait signifier « Si tu restes ici, je te percerai le cœur. » J'ai compris le message. Ce sont des êtres humains et ils ne sont pas idiots. Et c'est pour cela qu'ils nous tiennent à distance.
Oui, les sentinelles conservent une distance de sécurité. Et Survival International, qui défend les intérêts des peuples autochtones, relaie ce message partout dans le monde. Au sein des ONG, on craint que les sentinelles connaissent le même destin qu'un autre peuple des Andamans s'ils continuent d'abaisser leurs barrières. Les Jarawas ont longtemps combattu farouchement la progression des Britanniques, puis des Indiens sur leur territoire situé sur la plus vaste île andamanaise. Mais à force de voir leur zone de chasse se réduire sous la pression foncière, et de voir des anthropologues défiler chez eux, eh bien ils ont fini par pénétrer volontairement dans les villages indiens au cours des années 90. Coupés de leur mode de vie ancestral, ils ont alors décliné, malgré les aides de l'État. Ils sont tombés malades, ou dans l'alcool, la mendicité, et avalé par de sordides zoos humains, comme l'explique le documentariste Alexandre de Reims.
Sur la ville principale des Andamans, à Port Blair, les agences de touristes organisent des safaris photos le long d'une route qui traverse le territoire des Jarawas. Et donc tous les jours, il y a des touristes fortunés, d'ailleurs parce que ça coûte quand même cher d'aller là-bas, qui voyagent en convoi, en 4x4. Ils sont escortés par l'armée indienne. Et leur but, c'est de prendre des photos de Jarawas et de leur lancer des bananes.
Les sentinelles semblent parfaitement autosuffisants et en bonne santé. Ils ont régulièrement des enfants, contrairement aux onges, un autre peuple, que des infections m'ont rendu stérile. Et ils continuent de signifier, par leur attitude, qu'ils refusent d'être contactés. En 2004, c'est à coup de flèche qu'ils reçoivent l'hélicoptère chargé de voir s'ils ont survécu au tsunami. Et la photo fait le tour de la planète. En vertu du droit à l'autodétermination des peuples autochtones, les autorités indiennes décident d'abandonner toute tentative de contact avec North Sentinel. Après tout, ils sont seuls sur leur île, il est logique de les laisser tranquilles. North Sentinel devient alors une no-go zone absolue, où l'Inde assume sa non-ingérence et qu'elle ne surveille plus qu'à lointaine distance. Et lorsque deux braconniers indiens sont tués à coup de flèche par les sentinelles en 2006, pour être venus pêcher près de leur côte, l'État décide de ne pas aller chercher leur corps. N'avait qu'à pas y aller. De quoi décourager n'importe qui de se rendre sur une île aussi interdite qu'inhospitalière. Mais pas John Shaw, non. Car pour lui, il est impensable que des insulaires qui ont vécu pendant 60 000 ans sans le Christ puissent se passer de lui plus longtemps. Quelle idée!
while you're sleeping. My dreams keep me out all night. I'm waiting, waiting for Santa to feed me to the wild. Wanna sail, wanna sail, wanna sail. Wanna sail, got to sail, wanna sail.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les Sentinelles et le Missionnaire.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
John Cho ira sur l'île des Sentinelles pour y prêcher l'Évangile. Ainsi en a-t-il décidé. Bien. Mais comment se prépare-t-on à une telle expédition? Eh bien d'abord en intégrant la Oral Roberts University en Oklahoma, connue pour former de jeunes missionnaires. Ses supérieurs accueillent le projet de Cho avec intérêt, même s'ils ne souhaitent pas l'accompagner, trop dangereux. Plusieurs années durant, John Cho, qui mène à la ville une carrière de blogueur, voyage, apprend à survivre en milieu naturel. Et le voilà bientôt expert en cueillette de baies et en pêche à main nue. C'est qu'il va falloir savoir s'intégrer chez les Sentinelles avant de les gaver d'écritures évangéliques dont ils n'ont strictement rien à faire. Entre deux formations de médecine d'urgence en milieu sauvage, John Cho se livre à des exercices pratiques plus insolites. L'association évangélique All Nations, qui organise des camps afin d'entraîner les futurs missionnaires à nouer un contact avec des populations isolées, l'accueille dans ses rangs. Et là, on n'hésite pas à se grimer en faux autochtone parlant une langue inconnue. quelle meilleure manière qu'un jeu de rôle pour mettre les candidats en situation. C'est en tout cas l'avis de cette représentante de l'association.
Les acteurs et les actrices sont des membres de notre staff. J'ai joué une fausse villageoise plusieurs fois ou un faux chef de village à plusieurs reprises. Comme je parle une langue parlée par seulement 35 000 personnes sur la planète, je peux dire aux étudiants des choses comme et je lis la surprise sur leur visage. Quand des étudiants s'approchent, nous jouons à surgir avec des fausses armes qui les poussent à s'arrêter. Le pire qui puisse alors arriver, c'est qu'on leur demande de partir. Le coach revient alors et nous dit « Donnons-leur une seconde chance, voyons s'ils peuvent faire mieux cette fois. » Je me suis souvent demandé ce que j'ai pensé qu'il arriverait à John. Eh bien, j'ai pensé qu'il serait accepté.
Chez All Nations, on en est sûr, John sera accepté par les Sentinelles. Et d'ailleurs, ses amis sont également persuadés. John a ce je-ne-sais-quoi qui attire les gens vers lui, qu'il soit chrétien ou pas. Et il est tellement préparé, déterminé et doté d'une foi indéfectible. Novembre 2018, Chao débarque à Port Blair. Il n'est pas dépaysé par la moiteur qui pèse sur la capitale de l'archipel des Andamans. Il s'y est déjà rendu plusieurs fois, histoire de préparer le terrain. Cette fois, il est prêt à se rendre sur North Sentinel. Il a sympathisé avec des locaux, en particulier des Indiens de la communauté chrétienne. Par le biais d'un ingénieur surnommé Alex, il a même réussi à convaincre 5 pêcheurs de l'emmener à destination contre quelques billets. Ça n'a pas été facile. Tout le monde sait qu'il est formellement interdit d'approcher à moins de 5 km de l'île, qui est d'ailleurs surveillée par des gardes-côtes en patrouille. Mais le 14 novembre 2018, les 5 pêcheurs sont là. Ils viennent chercher John Cho à la porte de son miteux hôtel de Routard. Le jeune homme savoure l'air de la nuit. Voilà 11 jours qu'il n'est pas sorti de sa chambre. Le but de cette quarantaine, tuer les infections persistantes. Car il le sait, le moindre rhume peut être fatal aux sentinelles. Et il veut leur apporter le Christ, sa parole. À ses yeux, le plus grand bienfait de l'univers. Non, il n'est pas un marchand de mort. Alors qu'il quitte le rivage de Port Blair, embarqué dans un bateau de pêche, il écrit dans son journal.
Le phytoplancton bioluminescent éclaire notre bateau. Nous voyons les poissons sauter et filer comme des sirènes. La Voie lactée est au-dessus de nous, et Dieu, en personne, nous protège des patrouilles des gardes-côtes. À 4h30, nous entrons dans la crique de North Sentinel.
Enfin, elle est là, devant ses yeux. North Sentinel, baigné par les premiers rayons de soleil. John Cho décharge son kayak pliable et il commence à pagayer vers l'île. Soudain, des cris s'élèvent sur la côte et 2 hommes se précipitent vers lui. Les Sentinelles. John Cho leur sourit et leur crie façon Jeanne d'Arc du pauvre. Je m'appelle John, je vous aime, Jésus vous aime et m'a donné autorité pour venir à vous. Mais les yeux de John sont fixés sur l'arc et les flèches que portent les sentinelles. Et le voilà, tenaillé par la peur. Alors il jette vers eux le thon rouge qu'il comptait leur offrir et vite, vite, il retourne au bateau de pêche. Les sentinelles n'ont pas tiré. Une chance. Alors, que faire? Retourner à Port Blair? Abandonner la mission? Pas question. Quelques heures plus tard, John remonte dans son kayak et retourne vers l'île. Cette fois, les sentinelles sont des pirogues. Ils encerclent le jeune homme qui leur adresse quelques paroles en choussa. Les sentinelles rient. Évidemment, ils ne comprennent pas cette langue d'Afrique du Sud que John a apprise pour tenter de communiquer avec eux. Alors il descend son kayak et ouvre la Bible qu'il a emportée avec lui. Et il commence à prêcher la Genèse. Bon, les sentinelles se taisent quelques instants. Et soudain, une flèche lancée par un jeune garçon vient de se ficher dans la Bible. John se jette à l'eau et il nage à toute vitesse pour retourner sur le bateau de pêche, abandonnant son kayak. Cette fois, Dieu s'en est pris une. Mais lui, John, on l'a laissé partir encore une fois. Alors, que faire? Se demande-t-il en remontant sur le bateau de pêche. Retourner une troisième fois sur l'île? Il le sait, cette fois pourrait bien être la dernière. « Je ne veux pas mourir », écrit-il en lettres capitales dans son journal. Mais il regarde vers le ciel et griffonne « Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu veux que je sois tué d'une flèche, qu'il en soit ainsi. » Nous sommes le matin du 16 novembre 2018. Dans son journal, John Cho adresse une lettre à ses parents.
Maman, papa, vous pensez peut-être que je suis fou. Mais je pense que cela vaut la peine d'apporter la parole de Jésus à ces gens. Ne soyez pas en colère, ni contre eux, ni contre Dieu si je me fais tuer. Vivez plutôt votre vie en obéissant à ce pourquoi le Seigneur vous a appelé, et je vous reverrai quand vous traverserez le voile. Ne récupérez pas mon corps. C'est important. La vie éternelle de cette tribu est proche, et j'ai hâte de les voir autour du trône de Dieu, l'adorant dans leur propre langue. Je vous aime tous, et je prie pour que vous n'aimiez rien de plus au monde que Jésus-Christ. Soli Deo Gloria, John Cho.
John Cho retire ses habits, ne gardant que ses sous-vêtements. Il suit ainsi l'exemple de l'anthropologue Pandit qui s'était déshabillé un jour pour être sur un pied d'égalité avec les sentinelles. John s'adresse ensuite aux cinq pêcheurs. « Éloignez-vous. Si je dois mourir, je ne veux pas que vous voyiez cela. Mais revenez plus tard. » Il plonge dans l'océan et repart à la nage vers Nord Sentinel. Quelques heures plus tard, les cinq pêcheurs assistent au loin à l'enterrement sommaire de son cadavre. John Cho est mort, victime tout à la fois de son idéalisme, de son entêtement, de son arrogance, de son courage aussi en un mot commençant, de sa foi. C'est Alex, l'ami indien de John, qui rapporte à ses parents la nouvelle du décès de leur fils. Aussitôt, la famille prend contact avec le consulat des États-Unis en Inde. Voilà bien un épineux dossier pour l'administration des Andamans. Comment un apprenti missionnaire étranger a-t-il pu s'infiltrer si facilement sur une île interdite? S'il fallait une preuve que la surveillance des eaux ceinturant Nord Sentinel est défaillante, c'en est une. Il semble même que l'île se soit retrouvée par erreur sur une liste ministérielle recensant les zones tribales des Andamans ouvertes au public. Ce n'est évidemment pas ce qui a incité John Cho à se rendre en Terre Sentinel, un voyage qu'il préparait depuis des années. Mais voir les Andamans abaisser leurs barrières d'accès aux zones vulnérables afin de stimuler le tourisme sur l'archipel reste inquiétant. Rapidement, la nouvelle de la mort de John Cho se répand dans les médias du monde entier. Et l'ONG Survival International réagit.
Il n'est pas impossible que les sentinelles aient été infectées par des agents pathogènes mortels contre lesquels ils ne sont pas immunisés et qui seraient susceptibles d'anéantir toute la tribu. Les sentinelles ont démontré à de nombreuses reprises qu'ils veulent être laissés tranquilles et que leur souhait doit être respecté.
Oui, ainsi John Cho aurait pu se rendre coupable d'un ethnocide. Et les anthropologues et spécialistes dénoncent une démarche d'un autre âge au relent colonialiste. Mais enfin, quel besoin d'aller convertir ce peuple? C'est l'avis de la majorité de l'opinion publique, et même d'une partie de l'Église évangélique, qui envoie chaque année 130 000 missionnaires à l'étranger, et qui n'entend pas être associée à quelqu'un qui a franchi la ligne jaune. Mais parmi les chrétiens, certains élèvent la figure de John Cho en martyr, mort pour sa foi comme les plus grands héros du christianisme. Face à une assemblée de jeunes missionnaires, Bobby Clark, le responsable des missions de la Oral Roberts University, se lance dans une incitation à perpétuer l'action de John Cho.
Je crois que Dieu nous appelle. Et je crois que ce qu'il dit maintenant et en ce jour, c'est qu'il cherche à allumer des flammes dans les cœurs purs, afin de porter son évangile comme une torche olympique dans les endroits obscurs de la terre. Je crois que Dieu allume des flammes en chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés à trouver notre île de North Sentinel, et nous devons être prêts à clamer que nous irons.
Depuis 2018, personne n'a cherché à récupérer le corps de John Cho, et personne n'a voulu briser la tranquillité des sentinelles. Jusqu'à récemment, le 4 avril 2025, la police des Andamans annonce avoir arrêté et incarcéré un certain Mihailo Polyakov. Ce youtubeur américain de 24 ans a débarqué sur la plage de North Sentinel afin d'y déposer une canette de coca. Cadeau pour les sentinelles qui ne se sont pas montrées. Minable exploit, juste pour faire le buzz. Il faut croire que siècle après siècle, les sentinelles continuent de susciter les convoitises de tout genre. Mais il s'agit de ne pas oublier comment cela s'est terminé pour John Cho, donc à pas s'approcher.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le peuple des sentinelles, t'approche pas. On en parle avec notre invité Martin Léna, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de plaidoyer à Survival International, organisation non gouvernementale fondée en 1969 et qui défend les droits des peuples autochtones. Ça, c'est la mission, mais concrètement, que faites-vous? Comment intervenez-vous et où?
Alors, Survival mène des campagnes donc pour les droits des peuples autochtones sur certains sujets. Et un de ces sujets, c'est justement les droits des peuples non contactés. Alors la manière dont on fait ça, bien sûr, c'est surtout pas en contactant ces personnes. C'est au contraire en luttant pour qu'ils puissent continuer à faire ce choix, qui relève en fait de leur autodétermination. Et pour qu'ils puissent continuer à faire ce choix, il faut que leurs droits territoriaux soient reconnus et respectés. Donc que toutes les incursions dans leur territoire soient interdites, l'exploitation également, etc.
Donc c'est un travail juridique de droit international, essentiellement.
Alors ça se repose en partie sur le droit international, mais c'est aussi beaucoup de campagnes de mobilisation de l'opinion publique et de plaidoyer, de pression politique sur les gouvernements qui parfois, alors certains n'ont même pas les outils juridiques pour la protection de ces territoires et de ces peuples, d'autres les ont mais les appliquent peu, donc c'est un travail de chaque instant.
Et quelles sont les menaces qui pèsent sur ces peuples en dehors des maladies importées?
Alors il y a deux menaces principales qui concernent les peuples non contactés. La première, c'est le contact forcé, qui peut se faire pour plusieurs raisons. On l'a vu avec le cas des sentinelles pour la religion. Les gouvernements parfois prétendent aussi que ce contact forcé peut se faire pour leur bien ou pour le progrès, donc ce qui est tout ce narratif colonial, et parfois même pour l'intérêt national avec des grands projets qui permettraient de bénéficier à toute la population. Mais en fait, ces contacts risquent de décimer toute la population, vous l'avez dit, avec l'introduction de maladies contre lesquelles ils n'ont pas d'immunité. Mais surtout, ça laisse place à la deuxième menace, bien souvent, c'est l'exploitation ou la destruction de leurs terres. Et donc là, pour tout type de ressources, ça peut être l'exploitation minière, forestière, du pétrole, du gaz, l'agrobusiness, on peut tout imaginer.
Alors, c'est bien d'empêcher des peuples dits civilisés, hein, enfin qui se rapportent à leur civilisation, nous, en gros, empêcher d'aller embêter ces gens, effectivement, mais c'est dommage pour les anthropologues, enfin, qui servent la science, et c'est bien d'en connaître plus sur ces habitants autochtones. Encore une fois, pour la science et le savoir.
Alors,
comment on trouve l'équilibre?
Ouais, en réalité, la plupart des anthropologues actuellement sont d'accord sur le fait de renoncer à tout contact avec les peuples non contactés, étant donné la menace d'anéantissement total que le contact fait peser sur ces peuples. Et même les anthropologues ou les membres des unités spécialisées des gouvernements qui avaient les meilleures intentions du monde, par exemple, je pense au département des peuples non contactés de la Funai au Brésil, qui à la fin des années 80... essayer d'initier un contact, mais de la manière la plus sûre possible, la manière la plus contrôlée possible, avec même une équipe médicale, pour éviter finalement des erreurs du passé, s'est rendu compte que même avec cette meilleure volonté et cette meilleure préparation, les membres du peuple, lors de cette mission, avaient fini par mourir les uns après les autres. Donc on se rend compte que c'est impossible d'avoir un contact contrôlé, et voilà, l'anéantissement ne permet pas de faire avancer la science.
Bien sûr. Vous parlez du Brésil, est-ce qu'avec Bolsonaro, on a reculé par rapport à cette politique de protection et de non-ingérence?
Alors on a largement reculé, et on sait même, donc avec Bolsonaro, c'était une attaque de toutes parts contre les droits autochtones et les droits des peuples non contactés ne faisaient pas exception, mais on s'est aussi rendu compte d'une confluence des intérêts entre par exemple les intérêts des missionnaires évangéliques et les intérêts de Bolsonaro qui était l'exploitation des territoires autochtones. Il a nommé par exemple un ancien missionnaire évangélique d'une grande organisation missionnaire américaine à la tête du département des droits des peuples non contactés du Brésil. Donc ça a donné à cette personne accès à toutes les informations qui normalement sont destinées à leur protection, mais qui dans ce cas-ci étaient plutôt dirigées vers l'exploitation.
Alors comment la nécessité de protéger les peuples isolés s'est-elle imposée au niveau international?
Alors au niveau international, c'est pas quelque chose qui est ancré dans un texte particulier, mais ça relève vraiment du droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination pour les peuples non contactés relève de cette décision de non-contact. En fait, c'est ce qui leur permet vraiment de pouvoir continuer à faire ce choix. Et donc il y a plusieurs instruments juridiques notamment des Nations Unies qui font ce lien entre le non-contact et l'autodétermination. Mais sinon, on retrouve les instruments plus classiques des droits des peuples autochtones, comme la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ou les droits humains, comme le droit à la vie, qui sont reconnus, ou le droit à la santé, qui sont reconnus dans d'autres textes internationaux.
Parce que là, dans l'exemple de John Shaw, c'est quand même frappant, on parle d'évangélisation. Enfin, on sait à quoi ça renvoie. Alors, c'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui, évidemment, on va pas les massacrer, mais enfin, on sait à quoi ce processus d'imposer une culture qui est la nôtre et qui est pas la leur, avec des repères qui sont différents, a pu être dramatique. Donc, ne serait-ce que pour le principe, comment peut-on encore prétendre évangéliser?
Écoutez, c'est encore une menace qu'on retrouve pourtant sur
c'est toujours vivace,
hein. sur beaucoup de peuples autochtones. Et souvent, ça peut être des missionnaires individuels qui feront ça de leur propre initiative. Mais par exemple, les grandes organisations évangéliques aux États-Unis sont très puissantes, ont énormément de fonds, disposent même parfois d'hélicoptères pour aller à la rencontre des peuples non contactés d'Amazonie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anecdotique. Et le cas de John Shaw est
pas isolé,
et on peut penser que d'autres personnes puissent même limiter en ce qui concerne les sentinelles. En tout cas, c'est aussi une menace pour d'autres peuples.
France Inter. Affaires sensibles.
Martin Léna, je rappelle que vous êtes chargé de plaidoyer au sein de l'ONG Survival International. Ce John Shaw voulait donc évangéliser les sentinelles. Que sait-on des convictions religieuses et culturelles, ou les deux, des sentinelles aujourd'hui?
Alors la réponse courte, c'est rien. Parce qu'en fait, on sait très
par définition.
On sait très peu de choses de ces peuples. On ne sait même pas quelle est leur langue, quel est le nom qu'ils se donnent à eux-mêmes. On a quelques informations sur leur mode de vie, de chasse, de pêche, de cueillette, mais au final, on a peu d'informations sur le reste, y compris sur leurs croyances religieuses.
Et pour cause. Au début des années 2000, l'Inde, qui administre l'île des Sentinelles, a décidé de passer à une politique dite Hands off, eyes on. C'est-à-dire qu'on touche avec les yeux. Voilà. Est-ce là l'avenir de nos relations avec les populations en isolation volontaire?
Alors c'est l'avenir, mais aussi en allant plus loin, parce que c'est pas suffisant, il faut aussi une protection réelle du territoire et une reconnaissance officielle et que les autorités surveillent la zone de manière effective pour empêcher que les personnes essayent même de voler les ressources, etc. Donc dans tous les cas, pour tous les peuples non contactés, il faut vraiment qu'il y ait ces deux choses, c'est la reconnaissance et la protection des territoires et surtout l'arrêt de toute activité sur leur terre.
Et donc c'est comme ça que travaillent aussi les anthropologues, j'imagine, maintenant. N'allant pas sur le terrain, vous le disiez tout à l'heure, ils ne vont plus sur le terrain. Donc ils travaillent, ils observent, ils touchent avec les yeux, quoi. C'est ça.
Oui, c'est ça. Alors il y a différentes manières d'avoir des informations sur ces peuples. Alors ça peut être des membres de peuples non contactés qui ont subi le contact et maintenant racontent leurs témoignages. Ça peut être les communautés voisines qui peuvent parfois avoir des interactions sporadiques et qui peuvent nous renseigner. Donc voilà, il y a différentes manières. C'est aussi parfois des survols aériens pour s'assurer de leur présence, puisque avoir la preuve de leur existence est aussi important pour avoir la reconnaissance de ces terres. Mmh. Au Brésil, les territoires de peuples non contactés peuvent être démarqués officiellement et donc protégés, mais ça suppose de pouvoir fournir des preuves.
Et bien sûr, pas de tourisme, c'est évident.
Hein. Évidemment.
L'Inde se montre aujourd'hui assez intraitable d'ailleurs avec ceux qui bravent la loi et viennent déranger les sentinelles. Alors, l'Inde est moins protectrice avec un autre peuple, au moins connu des médias. Il s'appelle les Champen, menacés par un méga projet de développement sur leur île, une île qui s'appelle Grande Nicobar.
Effectivement, c'est assez ironique que le peuple des Champen soit pas protégé de la même manière que les sentinelles par le gouvernement indien, alors que les règles locales des îles Andaman sont censées s'appliquer. Donc, ils font face à ce projet, à ce méga projet qui vise à transformer leur île en Hong Kong de l'Inde, et donc qui comprend alors une nouvelle ville, un méga port de marchandises, un aéroport international, une centrale électrique, une base militaire, et tout ça au nom de l'intérêt national et l'intérêt stratégique de l'Inde. Et alors, ça supposerait que des villages Champen ainsi que leurs zones de chasse, d'alimentation et finalement toute la forêt tropicale dont ils dépendent soient dévastées. Ça risque de mener aussi à l'effondrement de ce peuple.
Mais que pouvez-vous faire, vous, Survival International? Pas grand-chose, j'imagine, face à une logique économique puissante comme celle-là.
Alors on peut faire pression sur le gouvernement pour que les activités cessent et qu'ils respectent la loi indienne, le droit international et que les intérêts économiques ne surpassent pas la survie d'un peuple tout entier. Donc on a déjà réussi à avoir des victoires sur ces sujets et on espère que le cas des Sean Penn ne sera pas différent. En tout cas la campagne continue et le public aussi peut soutenir ça en se mobilisant et en faisant pression sur le gouvernement indien.
Mais et que sentez-vous des intentions du gouvernement indien de ce que vous en savez? Vous les pensez prêts à renoncer, à amender le projet? Qu'est-ce que vous sentez là?
C'est toujours compliqué quand les intérêts, alors non seulement économiques, mais ici dans ce cas, les intérêts stratégiques, vu qu'il y a cette base militaire, sont en jeu. Mais en tout cas, on peut quand même garder espoir, étant donné que le projet n'est pas encore finalisé, n'est pas encore totalement, enfin que la destruction de la forêt n'est pas encore achevée. Et aussi étant donné alors non seulement, je vous le disais, les garanties juridiques nationales et internationales, et cette protection accordée aux sentinelles, justement, peut-être en raison aussi de leur visibilité médiatique. On peut espérer que si les Sean Penn finissent par bénéficier de cette même visibilité, oui, le gouvernement saura en tirer les conséquences.
Mais vous travaillez avec d'autres ONG qui poursuivent le même but que vous ? Vous êtes en solitaire ?
Alors, on est la seule ONG qui travaille sur cette question vraiment à l'échelle internationale, mais on travaille bien sûr avec beaucoup de partenaires locaux qui, en Amazonie ou en Inde ou en Indonésie, défendent et résistent pour les droits des peuples non contactés. Et finalement, les peuples non contactés, leur histoire est aussi une histoire de résistance. Et en fait, cette situation de non-contact, c'est aussi un choix et voilà un moyen de résister et de vivre sur leur terre.
Vous avez des relais partout, parce que je vois Survival International, vous êtes vraiment partout dans le monde. Peut-être pas tous les pays, mais où sont les relais?
Donc on travaille vraiment avec des partenaires autochtones et des communautés dans plein de pays. Mm-hmm. Mais en tout cas, les campagnes sont toujours centrées bien souvent dans nos sociétés industrialisées, là où on trouve la racine des problèmes, les financements, des projets néfastes qui visent les territoires autochtones.
Bien, je vous remercie Martin Léna. Bon courage pour votre combat, parce que c'est peut-être pas le pot de terre contre le pot de fer, mais aller contre des intérêts économiques, c'est toujours difficile. Merci d'être venu nous voir.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les Sentinelles, laissez-les tranquilles. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.